Vivre FM, podcast.
Au plus près de la recherche, jusqu'à 11h sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Qu'est-ce que la drépanocytose? Vous n'en savez rien, ou vous le savez peut-être déjà. Dans tous les cas, vous allez sûrement apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, parce que nos invités vont aborder un aspect peu connu d'une des conséquences de la maladie, en tout cas un aspect peu étudié ou peu analysé, puisque nous allons parler de l'impact de la drépanocytose sur le parcours éducatif et scolaire d'enfants atteints par la maladie. Voilà, nous verrons quel type de recherche nos invités vont mettre en place avec les enfants pour découvrir comment assurer un meilleur accompagnement scolaire de ces enfants donc atteints de drépanocytose. Au plus près de la recherche sur la drépanocytose, c'est tout de suite et c'est une émission qui vous est proposée en partenariat avec le CIRP bien sûr et la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap. Bonjour et bienvenue dans Au plus près de la recherche, puisque c'est le nom de notre émission désormais. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en plateau trois personnes, trois femmes, Martine, Brigitte et Corinne. Je vais vous en dire un mot de plus quand même, que vous puissiez les situer. Nous avons Martine Chomintowski. Voilà, j'espère que je prononce toujours correctement. Docteur en sciences de l'éducation, nous avons Brigitte Rebmeister qui a été professeure de lettres et qui est toujours spécialiste de l'évaluation. Et nous avons Corinne Pondaré, médecin pédiatre, responsable d'un centre de référence pédiatrique de drépanocytose au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Voilà pour les présentations. Et aujourd'hui, nous allons parler de la drépanocytose et notamment d'un projet de recherche qui est soutenu par la FIRA et qui va viser à évaluer les difficultés scolaires des enfants atteints de drépanocytose. Alors avant de rentrer dans le vif de la recherche, eh bien peut-être Corinne pour nous expliquer ce qu'est la drépanocytose, puisque ce n'est pas une maladie si connue, même si c'est une maladie génétique bien dépistée et dès la naissance, en France en tout cas.
Donc oui, la drépanocytose est une maladie qui est considérée encore comme rare. C'est malgré tout la première maladie génétique dépistée à la naissance. Vous savez qu'à la naissance, tous les enfants bénéficient d'un dépistage de 5 maladies. La drépanocytose fait partie de ces dépistages. Elle a une particularité, c'est que le dépistage est ciblé. Donc, ce n'est pas tous les enfants, mais c'est en fonction des origines géographiques. Mais malgré tout, c'est la première maladie génétique dépistée en France. Et on peut dire que depuis plusieurs années, environ 450 enfants naissent chaque année en France avec cette maladie.
Alors, quand vous parlez d'origine géographique, est-ce qu'on peut être plus précis? C'est-à-dire que c'est une maladie qui, a priori, n'était pas sur le sol français, que les gens emmènent avec eux? C'est des enfants de parents migrants, de parents...
C'est effectivement, enfin, la prévalence de cette maladie est plus importante dans des régions du monde où il y a encore du paludisme. Donc, ça vient de là, tout simplement. Et c'est fait que c'est une maladie qui est encore beaucoup plus fréquente chez les enfants dont les parents ont des origines géographiques, l'Afrique ou ailleurs. Mais ça n'a rien à voir avec... je dirais que ça, c'est une maladie génétique qui se transmet selon les lois classiques de la génétique. Elle reste encore plus fréquente dans certains pays. D'où le dépistage pour des enfants dont les parents sont originaires de ces pays.
Et alors concrètement, qu'est-ce que ça fait en deux mots? Quel est l'impact, les conséquences sur la vie de l'enfant? Alors d'abord peut-être physique et puis après les conséquences autres de la vie sociale.
Voilà, donc cette maladie est une maladie du sang, plus précisément des globules rouges du sang, qui sont du fait de la fabrication d'une hémoglobine anormale qu'on appelle hémoglobine S, plus fragile et plus déformable. Les globules rouges, vous le savez, ça sert à transporter l'oxygène au corps. Et donc cette maladie va avoir un retentissement général sur le corps. Parmi les symptômes les plus fréquents, le globule rouge est fragilisé, donc ces enfants ont une anémie, moins de globules rouges que les autres, et du coup ça se traduit par une fatigabilité, essentiellement. Un autre symptôme, les globules rouges sont pas déformables, ils perdent leur souplesse et donc ils vont se coincer dans les vaisseaux sanguins. Et ceci est responsable de douleurs, on appelle ce symptôme des crises vaso-occlusives douloureuses, et ça correspond finalement à un infarctus, sauf que là il va avoir lieu dans tous les organes. Tous les organes peuvent être touchés, les os, les muscles, le cœur, le poumon. Et donc c'est responsable... à court terme, de douleurs qui peuvent être très très importantes et qui peuvent conduire l'enfant à l'hôpital et qui peuvent conduire les médecins à administrer de la morphine.
Et pourquoi s'intéresser dans un projet de recherche aux conséquences spécifiques que ça va avoir sur le parcours scolaire et éducatif de l'enfant ? Est-ce que c'est une maladie qui, du coup, est connue ? Et j'allais dire que le corps enseignant ou les acteurs apprennent à la reconnaître et à la prendre en charge facilement ? Ou est-ce que non, ça a des conséquences qui sont alors peut-être méconnues, mais en tout cas qui ont un impact du coup fort sur le parcours de l'enfant ?
Alors, ce qui est connu, en particulier dans le milieu scolaire, hein, c'est les conséquences de la maladie sur l'absentisme scolaire. Ce qui est connu aussi, c'est l'impact en termes de douleur. Donc, les enseignants, ces enfants bénéficient de ce qu'on appelle un projet d'accueil individualisé. Et donc, les enseignants, l'infirmière, savent ce qu'il faut faire en cas de crise douloureuse, en cas de fièvre. Voilà. Les autres conséquences de cette maladie, en particulier la fatigabilité, c'est quelque chose de moins connu probablement, ou en tout cas de pas facile à apprécier. Et puis, tout ce qui est difficultés scolaires, là aussi, c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'a fait l'objet d'aucune exploration approfondie. Il y a eu quelques études sur le niveau scolaire des enfants, en particulier chez des enfants en Afrique, mais sinon très très peu de choses sur les conséquences scolaires de la maladie. Donc, comment elle retentit sur la scolarité.
Et c'est pour ça qu'au sein du centre de référence dans lequel vous travaillez, vous vous êtes dit à un moment, il faudrait étudier cette question, analyser un petit peu, faire une recherche concrète, appliquée en l'occurrence, sur ce sujet-là.
Oui, alors ça, c'est vraiment lié à une expérience personnelle. En interrogeant les familles, en interrogeant les enfants, mais encore faut-il les interroger, ce n'était pas la priorité médicale initialement, c'est normal, la priorité a été de finalement permettre aux enfants d'éviter les conséquences dramatiques de cette maladie, puisqu'il y avait des conséquences parfois très brutales. Donc, il y a eu une prise en charge dans ce sens-là. Et le reste, finalement, ça vient après. Et donc, mon expérience personnelle, c'était que le retentissement de la maladie sur la scolarité est important. On peut déjà le comprendre via l'absentisme scolaire. Il y a aussi, par exemple, les douleurs. Ça veut dire que quand vous avez mal, vous n'êtes pas disponible pour apprendre. Les enfants aussi ont régulièrement, par exemple, des antalgiques à base de morphine, tout ce qui est codéine. Et là aussi, ça peut retentir sur leur capacité à être attentif.
Ouais.
Voilà. Et donc, en interrogeant les familles, quand on se posait la question de combien de jours tu ne vas pas à l'école parce que tu as mal, parce que tu étais fatigué. Et là, on se rend compte finalement de l'impact. Mais c'était quelque chose dont on parlait peu jusqu'à présent. Et puis aussi, pourquoi ce projet ? C'est que moi, je suis hématologue pédiatre et j'ai travaillé pendant longtemps dans des centres d'hématologie pédiatrique où il y avait une présence d'enseignants à l'hôpital assez importante, en tout cas. En tout cas, il y avait des enseignants présents. Le centre où je travaillais avant à Lyon s'occupait d'enfants à la fois qui avaient des leucémies et des cancers, et en même temps des enfants drépanocytaires. C'était les mêmes services. Et donc, l'histoire, c'est que des enseignants se sont occupés d'enfants drépanocytaires et ont pu voir les difficultés. Et puis surtout, je me suis rendu compte que quand on s'occupait d'eux, c'est-à-dire quand il y avait une aide extérieure, on voyait que les difficultés s'amélioraient. Et en fait, c'est vraiment l'origine de ce projet. C'est qu'à la fois, pour moi, il y a certainement des conséquences sur la scolarité de ces enfants, mais qu'en même temps, si on s'en occupe, on peut les améliorer.
Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, vous êtes arrivé à aller interpeller, peut-être, en tout cas, à contacter Martine et Brigitte pour leurs compétences, pour compléter, en fait, le côté médical, les compétences médicales que vous aviez au sein de votre équipe, ou en tout cas au sein du centre de Créteil. Alors, comment ça s'est fait, Martine, peut-être ?
Quand Pondaré m'a contacté, son sujet m'a intéressée tout de suite parce que, en fait, moi, je ne connais rien à la drépanocytose, mais en revanche, je connais bien les manifestations des difficultés scolaires et je peux à peu près les dater et les situer dans un parcours scolaire d'enfant en regardant ce que les enfants produisent. Donc, quand elle m'a expliqué ce qu'elle voulait savoir, c'est-à-dire l'impact que peut avoir la maladie ou que peuvent avoir les médicaments, en tout cas l'impact global sur la scolarité de cet ensemble, moi, ça m'intéressait beaucoup de pouvoir lui donner des éléments un peu concrets sur cet impact. Notre souci, c'était de créer un test qui ne soit pas trop long à faire passer, donc un test original, et qui permette en très très peu de temps pour les enfants et de temps pour les professionnels, et avec une passation simple, d'en savoir le plus possible. Donc c'est sur ce thème-là que nous avons décidé de présenter un projet et d'essayer de faire financer la création de ce test, la création d'un premier outil informatique pour aider à la compréhension. Et c'est à ce titre-là que je me suis tournée vers quelqu'un avec qui j'étais habituée à travailler et qui est spécialiste du testing scolaire et qui est donc Brigitte.
Brigitte qui est avec nous aussi autour du plateau. Donc voilà, vous avez été contactée, alors ancienne professeure de lettres, je le disais, mais au-delà de ça, une expérience.
J'ai travaillé longtemps sur l'évaluation des élèves, notamment au sein du ministère de l'Éducation nationale, à la DEP,
division dans l'éducation nationale,
division d'évaluation de la prospective. Et à ce titre-là, donc, je coordonnais les évaluations qui avaient lieu en 6e à l'époque et qui étaient généralisées sur le plan national. Donc, cette expérience, je l'ai réutilisée longtemps avec Martine au sein d'un projet dans le rectorat, dans l'Académie de Paris, au sein du rectorat dans l'Académie de Paris. Et du coup, Martine et moi, ça faisait 6 ou 7 ans que nous travaillions ensemble régulièrement et que nous analysions notamment les résultats d'évaluation d'élèves. C'est à ce titre-là qu'elle m'a embarquée dans ce projet où je l'ai suivie, bien sûr, avec enthousiasme, comme toujours.
Voilà, c'était important, là je reviens vers vous Corinne, mais voilà, de compléter par des personnes en tout cas dont l'expertise et la compétence pourront servir à valider le projet de recherche et à valider les résultats qu'on compte bien obtenir.
Oui, tout à fait. Et en même temps, l'idée des tests scolaires, c'était de pouvoir parler après aux enseignants, c'est-à-dire qu'il y ait des résultats dont les résultats puissent être après transcrits, le retour, c'est vers les enseignants.
Voilà, qu'il y ait des enseignants qui puissent parler aux enseignants,
voilà.
Pour que, voilà, qu'il n'y ait pas de doute et que tout le monde croit en les résultats. Oui,
oui, alors donc, notre objet, c'était de créer un test qui soit à la fois un test scolaire, c'est-à-dire qui puisse être étalonné sur les étalons que les enseignants connaissent, ce que l'on appelle les paliers 1 et 2 du socle, et en même temps d'apporter à Corinne Pondaré des éléments qui soient aussi des éléments qui concernent les compétences cognitives des enfants, pour qu'elle aussi, de son côté, puisse avoir un dialogue avec les médecins. Donc notre principe de base, c'était d'avoir un double cahier des charges. D'un côté, on voulait s'adresser à des professionnels de la médecine et aller leur parler des comment fonctionne le cerveau des enfants. Et de l'autre côté, on voulait pouvoir traduire ça dans la langue des enseignants de façon à ce qu'ils puissent aller s'intéresser de plus près aux enfants, parce que quand même, un de nos soucis, c'est que cette maladie ne se voit pas. Alors, ce n'est pas un souci en soi, mais c'est un souci parce que l'empathie des enseignants n'est du coup pas toujours sollicitée et qu'ils peuvent avoir l'impression que les enfants sont feignants, qu'ils n'ont pas envie de travailler, qu'on sait qu'il y a un impact réel de la maladie sur la fatigabilité des enfants.
Au plus près de la recherche, jusqu'à 11h sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Et de retour dans Au plus près de la recherche avec nos invités Martine, Brigitte, Corinne, je redirai que vous êtes docteur, professeur, médecin, on en reparlera, on y reviendra. La drépanocytose, on l'a vu, c'est une maladie génétique complexe, le parcours scolaire des enfants atteints de drépanocytose est affecté par la maladie, qui a des conséquences importantes dans leur parcours. Et cette recherche appliquée, elle va, en tout cas vous l'avez construite avec comme objectif de comprendre quels vont être quels sont d'abord les profils scolaires de ces enfants et quelles sont les problématiques spécifiques qu'ils rencontrent. Alors Martine, vous nous disiez un mot de cela à l'instant, en termes on va dire simples pour des gens qui ne sont pas très à l'aise avec le parcours scolaire, un enfant atteint de drépanocytose, il est plus fatigué, il a parfois des crises, il a de l'absentéisme, concrètement, il est en situation d'échec et on veut voir comment pallier à cela.
Alors justement, l'idée, c'était de se dire, d'abord qu'il n'est pas forcément en situation d'échec, mais qu'il peut être en situation de difficulté. Donc ça, on a vu que c'était pour un grand nombre de ces enfants, mais on voulait connaître la nature des difficultés. Et quand on parle de nature des difficultés, ben déjà des choses simples. Est-ce que au moment de ce qu'on appelle les grands apprentissages, hein, c'est-à-dire le lire, écrire, construire le nombre, est-ce qu'on a un impact réel sur ces apprentissages-là? Puisque si c'est le cas, on risque d'avoir après, pendant toute la scolarité, des difficultés sur tout ce qu'on va vouloir installer. Ou est-ce qu'on aurait affaire à des difficultés plus générales, des difficultés qui seraient plus liées à de la déficience, à des défaillances cognitives? Et dans ce cas, est-ce qu'on devait imaginer des programmes peut-être d'éducation adaptée, ou voilà, c'était nos sujets de base. Donc pour nous, ce qui était important, c'était de pouvoir aller creuser dans ce que l'on appelle les micro-compétences, c'est-à-dire les petites choses qui, mises bout à bout, vont faire que l'on est capable de faire ou que l'on n'est pas capable. Alors je vous prends un exemple. Si on veut parler d'apprendre à lire, avant même de parler d'apprendre à lire, on va se demander si on a bien compris que à chaque son correspond une certaine manière de mettre sur le papier quelque chose. Et puis on va voir si on est capable de le faire pour ce qu'on appelle les 36 phonèmes du français, hein, c'est-à-dire les 36 sons qu'on peut avoir dans les oreilles en français. Est-ce qu'on est capable de créer au bout de son stylo quelque chose qui corresponde à chacun de ces sons. Donc nous, on est allé chercher de ce côté-là pour voir si ce grand apprentissage, qui est l'apprentissage de la lecture, avait à souffrir d'une façon particulière de cette maladie, ou si en tout cas, on pouvait généraliser un certain type de difficulté par rapport à cet apprentissage du lire-écrire.
C'est-à-dire qu'il y a un retard qui est pris petit à petit, on est parti de ça, c'est-à-dire qu'il y a un retard, il y a des étapes qui sont un peu plus difficiles à franchir pour ces enfants-là, et on voudrait savoir à quel moment ça démarre et de quoi il s'agit exactement.
Alors précisément, on a une cohorte d'enfants, et nous, au départ, hein, je vais retourner en arrière, on n'avait pas d'a priori. On savait que pour certains, la scolarité était difficile, mais on était bien incapable de dire à partir de quel moment elle devenait difficile ou si elle était difficile d'office pour tout le monde. Donc on a créé des tests qui vont chercher du côté de compétences que l'on ne teste en général jamais au niveau scolaire, c'est-à-dire de compétences qui sont en amont des apprentissages. Et notamment c'est cette fameuse correspondance graphophonétique, ça s'appelle comme ça, entre ce que les enfants entendent, ce qu'ils sont capables de mettre sur un papier et qui correspond à ce qu'ils entendent, et quand ils lisent un papier, ce qu'ils sont capables de transformer en mots pour le remettre dans leur tête.
Brigitte Rebmeister, vous faites partie de cette équipe pédagogique qui a créé ces tests. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et concrètement, comment ça s'organise? C'est-à-dire que vous avez donc sélectionné, il y a eu des enfants et des familles aussi inclus, mais recrutés avec l'hôpital de Créteil. Et aujourd'hui, concrètement, où est-ce qu'on en est de ces tests?
La sélection des enfants, c'est l'hôpital, bien sûr, qui l'a faite. Et Corinne nous a transmis le nom de certains enfants. À dire vrai, elle ne nous a même pas transmis les noms. C'est nous qui avons conçu l'évaluation. Nous avons créé un outil avec 76 items, c'est-à-dire 76 questions qui sont évaluées, si vous voulez, dans notre test. Et Martine, vous parlez du palier 1 et du palier 2 du socle. Le palier 1 du socle, c'est ce qu'un enfant doit avoir acquis en fin de CE1. Donc, le palier 2, c'est en fin de 6e. Donc, nous avons tablé essentiellement sur le palier 1, c'est-à-dire ce qu'un enfant doit avoir acquis en fin de CE1. Et nous voulions savoir si tous ces enfants, quand un enfant est en difficulté, souvent, ce sont ces compétences-là qu'il n'a pas acquises, et c'est ce qui lui fait défaut pour la suite des apprentissages, bien sûr. Donc, une fois que nous avons créé ces évaluations, il fallait, Martine nous le disait, qu'elles soient passées relativement rapidement. Donc, nous ne voulions pas que la passation soit supérieure à 1h30. Je pense que ça a duré, en fait, 2 fois 3/4 d'heure. Nous avons transmis l'outil à Corinne, qui l'a fait passer aux enfants qu'elle avait sélectionnés. Voilà. Et les résultats ont été... Alors, bien sûr, ces évaluations sont accompagnées d'un cahier de passation avec toutes les réponses possibles qui sont notées. Et en fonction de la réponse donnée, on code, si vous voulez, chaque item, c'est-à-dire chaque question est codée par un item. Et lequel item, à cet item-là, donc, correspond de différentes possibilités de réponse qu'on code de 1 à 9 selon des critères que nous avons choisis. Donc, Corinne a fait passer ses évaluations, elles ont été corrigées au CHI et nous avons ensuite travaillé à partir de ces résultats. Et nous travaillons de deux façons. Il y a un outil informatique que nous avons conçu, c'est pas nous qui l'avons conçu, mais nous avons demandé à une étudiante de nous le concevoir. Ce qui nous permet d'avoir des résultats statistiques relativement rapides et d'avoir, d'un coup d'œil global, on voit les enfants qui sont en difficulté et ceux qui ne le sont pas ou ceux qui le sont moins. Et ensuite, Martine et moi, nous prenons chaque cahier et nous regardons les productions des enfants pour analyser les endroits où il y a des difficultés et affiner leurs résultats et faire une fiche, un compte-rendu individuel de chaque enfant.
Alors comment ça va se passer, ça? On l'a vu, donc Corinne Pondaré, vous êtes au centre de référence pédiatrique de drépanocytose. C'est les professionnels côté éducatif qui analysent les résultats. Après, il y a quoi? Il y a un échange? C'est à nouveau l'équipe médicale qui va prendre en charge ces résultats?
Oui, alors c'est vrai que les enfants sont venus, il y a eu des séances de passation collective, hein, donc tout ça est déjà fait. Ensuite, les cahiers ont été remis et moi, je participe enfin régulièrement finalement à l'analyse des résultats. Voilà, donc ça permet un peu de comprendre davantage cette recherche, aussi de comprendre les difficultés, parce que pour quelqu'un qui n'est pas enseignant, voilà, ça me parlait moins initialement. Et on va finalement restituer les résultats de chaque enfant. On a lors d'une journée, hein, avec les médecins référents de chaque enfant, puisqu'on est je dirige un centre de référence, hein, on est trois médecins responsables de ces enfants. Donc, on va restituer à l'équipe médicale, finalement. Il y aura l'éducatrice, il y aura le psychologue du service. Enfin, c'est vraiment l'équipe médicale qui va avoir le retour de ce que voient les enseignantes. On va donc élaborer des hypothèses, hein, voilà. Et ensuite, on fera un retour aux familles de ces résultats, et on pense aussi faire un retour aux médecins scolaires.
Alors, avant de plonger plus dans les résultats, mais c'est quel type d'hypothèse qu'on va créer à partir de ces analyses? C'est-à-dire de se dire, c'est à tel niveau, à tel degré de scolarité qu'il va y avoir un décrochage? Peut-être Martine, là-dessus.
Alors, en fait, on présente pour chaque enfant un dossier, trois rubriques. Alors, d'abord des statistiques, hein. Et puis ensuite, trois rubriques. Une rubrique qu'on a appelée constat, où on explique très précisément ce qui nous fait dire que cet enfant a tel type de difficulté, tel type de difficulté ou tel type de compétence. Ensuite, une rubrique hypothèse. Et dans cette rubrique hypothèse, on va dater, c'est-à-dire qu'on a essayé de retrouver la genèse de ces difficultés-là. S'il a cette difficulté, c'est probablement qu'à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où on présente cet apprentissage-là à l'école, il n'était pas disponible. On va corroborer avec ce que vont nous dire les médecins du parcours de cet enfant. Et là, jusque-là, c'est ce qu'on a fait avec Corinne et ça fonctionne assez bien. En général, quand on lui dit, nous on s'aperçoit que, par exemple, à partir du millier, cet enfant-là n'a pas construit le nombre. On s'aperçoit qu'effectivement, c'est un apprentissage qui se fait à partir du début du CE1 et qu'effectivement, cet enfant-là, à partir du début du CE1, il a eu de graves soucis de santé, qu'il s'est absenté pendant un long moment et que du coup, il est logique qu'il lui manque un maillon de la chaîne. Plutôt que de lui faire reprendre toute une année, on a juste le maillon manquant et on va pouvoir proposer, ça c'est notre troisième rubrique, des propositions pédagogiques, de façon à ce que cet enfant puisse reprendre là où il s'était arrêté ou là où il y a eu un trou dans ses apprentissages. Et c'est-à-dire que ce qu'on voit souvent, c'est que en fait, ce à quoi on assiste ne sont pas des troubles de la cognition. mais tout bêtement des trous dans l'apprentissage qui sont liés à l'absentéisme, qui sont liés à la douleur, qui sont liés au moment où la maladie a connu un pic. Et lorsque ce moment-là s'est situé au moment des grands apprentissages, en CP ou en CE1, ben, il y a des trous énormes sur lesquels les enfants ont ensuite du mal à construire des compétences scolaires.
Et donc, c'est tout l'intérêt de la recherche appliquée,
exactement.
C'est qu'on va pouvoir faire des propositions extrêmement concrètes
ciblées
pour combler ces trous.
Exactement. Et puis,
non, allez-y.
Et puis aussi pour changer le regard, c'est-à-dire que très souvent, on avait des dossiers sur lesquels on se posait des questions en parlant en termes de déficience. Et là, on se retrouve, nous, à répondre que non, déficience, il n'y a pas et on a des éléments pour le dire. En revanche, il y a des manques et des manques, ça se comble. Voilà.
Au plus près de la recherche, jusqu'à 11h sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Et toujours autour des micros avec Martine Chomantowski, qui est docteur en sciences de l'éducation, Brigitte Rebmeister, ancienne professeure de lettres, mais toujours spécialiste de l'évaluation, et Corinne Pondaré, qui est médecin pédiatre au centre de référence pédiatrique de drépanocytose à l'hôpital de Créteil. On le voit, les enfants atteints de drépanocytose, vous l'avez vu en tout cas concrètement dans l'étude que vous êtes en train de mener, mais qui est partiellement déjà achevée, ont des... Alors, je vais dire déficience, mais ça va peut-être pas être le mot exact. En tout cas, c'est pas des enfants déficients. Et c'est un premier intérêt, en tout cas, de l'étude que vous menez. C'est que ces enfants, on va dire à 90%, enfin, vous me corrigerez, fonctionnent tout à fait normalement. Mais ils ont accumulé des fois un certain nombre de retards. Ils ont accumulé des petites problématiques qui ne leur permettent pas, après, de poursuivre une scolarité normale. C'est ça la problématique à laquelle on s'attaque.
Alors, oui, c'est exactement ça. Alors, je vais juste pondérer un petit peu les chiffres. Dire 90%, là où on en est, ce serait compliqué parce qu'on a, disons qu'on en est à 70% de dépouillement et d'analyse des tests. Et que, enfin, moi, je dirais qu'on est plutôt autour de 80% d'enfants qui, effectivement, fonctionnent normalement, mais qui ont un parcours scolaire chaotique, et notamment chaotique au moment des grands apprentissages. Et vous parliez de petites problématiques. Finalement, ce sont des problématiques énormes, parce qu'on s'aperçoit que ce sont des enfants qui ont mal construit le lire-écrire, et très souvent mal construit l'orthographe et la grammaire, et très souvent mal construit le nombre, notamment la numération de positions, et qui, du coup, se retrouvent en difficulté en mathématiques, en français, et qui, à partir de la 6e, 5e, se retrouvent complètement noyés parce que ces compétences de base manquent vraiment... Enfin, c'est comme une maison qui n'aurait pas de fondation et qui est posée sur du sable. Et pour le coup, à partir de la 6e, ça devient carrément impossible.
Donc les enfants vont avancer en scolarité, mais avec certains blocages. Vous me disiez tout à l'heure hors micro, c'est-à-dire il va apprendre à compter jusqu'à 999, mais dû à la maladie, à une absence ou autre, à un moment, il va avoir du mal à construire la suite. Et ça va lui poser problème après pour poursuivre une scolarité normale. Mais c'est pas lié à, entre guillemets, un handicap mental.
C'est lié au fait qu'on apprend à compter jusqu'à 999 au CP. Et c'est la base de ce qu'on appelle la numération de position. Donc centaines, dizaines, unités. Et puis à partir de là, à partir du début du CE1, on passe aux milliers. Hein, on apprend à calculer avec des dizaines de milliers, et puis ensuite avec des centaines de milliers. Donc ce principe de notre numération de position, si on ne le comprend pas et qu'on n'est pas capable de construire le nombre, on ne pourra pas après construire les décimaux, on ne pourra pas après travailler sur des opérations. Et ça veut dire que tout le parcours mathématique à partir du CM1, du CM2, de la 6e et au-delà, risque d'être complètement obéré, alors qu'au départ, les enfants ont des capacités tout à fait normales. Simplement, on n'apprend pas tout seul à compter les centaines de milliers, à compter jusqu'au million. Et le moment qui leur a manqué doit absolument être repris avec des professionnels de l'apprentissage, avec des gens qui savent ce qu'on appelle la didactique des mathématiques, hein, comment on apprend la numération de position. Et si cette étape-là n'est pas honorée, ces enfants-là ne pourront jamais faire de mathématiques.
Et ça va être toute la difficulté de construire des outils qui vont permettre de répondre à cette problématique. Corinne, vous allez peut-être nous en dire un mot, mais avant ça, peut-être Brigitte, ce qui est important aussi
pour cette étude, c'est que justement le fait d'avoir des professionnels qui évaluent cela, ça permet de donner déjà aux enseignants une information, on va dire, qui est ces enfants-là, ils sont comme tout le monde, ils n'ont pas des retards spécifiques. Enfin, ils ont des retards spécifiques, mais qui ne sont pas...
Qui seraient les mêmes que les vôtres si vous aviez eu les mêmes trous au même moment.
Si j'avais une absence à ce moment-là, ce serait exactement pareil. C'est important que des professionnels le disent, ça, l'exprime.
Voilà, on pensait justement que nous, on peut parler aux enseignants parce qu'on a des outils qui nous permettent de leur parler, de nous adresser à eux, nous parlons de la même chose. Et à partir des tests, si on montre par exemple à un professeur de mathématiques de 6e, ce qui est le cas d'une élève qu'on a étudiée ce matin, que cet élève ne sait pas écrire 1715 parce que lorsqu'on leur demande d'écrire des chiffres au-dessus de 1000, elle ne sait pas les écrire, il est évident que l'enseignant n'a pas testé ça dans sa classe, c'est sûr. Parce qu'en 6e, on part du principe qu'un enfant sait écrire les grands nombres, peut-être qu'il teste à partir de 100 000 ou 1 million, mais certainement pas à hauteur de 1000. Et du fait de la difficulté de cet enfant à écrire 1715, il est évident que là, on voit bien ce qu'il faut donner à cet enfant pour qu'il puisse continuer. Et que s'il n'arrive pas à écrire et à calculer les problèmes de mathématiques qu'on lui demande de calculer, c'est bien dû à une difficulté bien antérieure à la 6e.
Et alors comment, du coup, Corinne, on va répondre à ça? Comment on va faire pour proposer des outils, des méthodes, des formations, je ne sais pas, ou ne serait-ce que de l'information déjà, pour aider ces enfants?
Alors déjà, on pourra déjà informer les parents, et c'est aussi important parce que souvent, justement, les difficultés scolaires ne sont pas mises en lien avec la maladie. Donc c'est source d'incompréhension et puis même de mauvaise interprétation. Donc déjà, pouvoir dire oui, globalement, les enfants qui ont cette maladie peuvent avoir des parcours scolaires difficiles. On peut le comprendre, hein, ils ont des parcours médicaux chaotiques. Et finalement, ben, la scolarité, c'est pareil. Voilà, et donc même si les résultats sont préliminaires, on pense qu'effectivement, pour la majorité des enfants, quand il y a difficulté, c'est lié à un défaut d'apprentissage à un moment donné. Donc c'est quelque part aussi une bonne nouvelle parce qu'effectivement on peut y remédier. Donc maintenant ce qui nous semble au jour d'aujourd'hui, il me semble qu'on aurait besoin justement d'enseignants, soit d'enseignants spécialisés, d'enseignants qui puissent reprendre justement les apprentissages là où ils n'ont pas été acquis. Voilà. Alors individuellement pour un enfant, même si on pense faire le retour à l'enseignant, probablement que ça sera insuffisant, mais on peut imaginez par exemple, là où je travaille, il y a des enseignants qui travaillent dans le cadre d'une association L'école à l'hôpital. Donc on va leur poser la question, est-ce qu'éventuellement ils pourraient avoir du temps? On a déjà réfléchi ensemble. Il y a des associations qui permettent à des enfants, qui offrent des séjours de vacances d'une semaine dans la région parisienne. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait des séjours de vacances avec pendant une semaine, 15 jours, aussi l'école, reprise des fondamentaux? Donc créer des groupes d'enfants en fonction de leurs difficultés et pouvoir proposer... Qui puissent retravailler ça. Voilà.
Les outils, ça va du coup être beaucoup une question de moyens. C'est-à-dire qu'on va à un moment être obligé d'en passer par du corps enseignant, par des professionnels qui viennent donner de leur temps pour compléter et réapprendre ces micro-compétences pour avancer.
Voilà. Et de bons enseignants et de vrais enseignants. Parce qu'on se disait, alors il y a beaucoup de bénévoles qui très très gentiment donnent de leur temps, mais là pour le coup, il nous faut vraiment des gens qui sont bien formés et qui, pour éviter de faire perdre du temps aux enfants, vont travailler exactement sur ce qui est nécessaire et pas dans l'absolu sur tout le programme. Voilà.
Et ça, c'est une problématique d'avoir des enseignants formés spécifiquement à ce type de...
Juste des vrais enseignants, hein, des vrais profs de maths. Un vrai prof de maths, ça sait faire apprendre le nombre aux enfants. Un vrai enseignant spécialisé, c'est capable de reprendre la correspondance graphophonétique. Juste des vrais enseignants qui font juste ce qu'ils ont appris à faire et qu'ils font bien.
Après, on a vu que ce sont des enfants qui sont quand même fatigables. Donc, on a abordé ça, c'est-à-dire quand donner ces cours en plus. Donc, pendant l'année scolaire, c'est un peu compliqué, ils en ont assez. Donc, peut-être imaginer à quelque chose pendant les grandes vacances. Enfin, faut aussi penser que l'enfant, il a des choses à rattraper, mais il est en même temps dans le cursus scolaire. Donc,
Et de façon ludique aussi.
De façon ludique.
Il y avait des moyens de faire bien et de faire en même temps sans que ce soit gênant.
Mais l'idée, c'est quand même de les remettre dans ce parcours scolaire général, on va dire.
Complètement.
Pour justement éviter qu'ils en sortent.
Voilà, et d'identifier les difficultés tôt, hein, c'est ce qu'on a en tête. On se rend compte que finalement, là où c'est, enfin, déjà dès les premières années, il y a des conséquences hein, sur les apprentissages. Donc de les dépister tôt, il me semble qu'on va vers ça, dépister tôt et remédier tôt.
Et comment, du coup, concrètement, vous allez faire aussi pour former et informer les différents professionnels de santé et les parents et autres? C'est alors via justement peut-être la fédération SOS Globique qui, avec laquelle vous avez travaillé ou vous travaillez.
Oui, alors via les associations de patients, en même temps via le réseau ROFSED, qui est un réseau de soins vraiment spécialisé dans la drépanocytose. Et là, ils ont un site internet, ils se déplacent dans les écoles justement chaque fois, quand il y a un enfant qui est malade, pour justement expliquer la maladie, en expliquer les conséquences. Et donc, on pourra aussi mettre les problèmes scolaires dans ce cadre-là. Hein. Ils pourront en parler, on pourra diffuser les résultats de la recherche et en même temps sensibiliser.
Est-ce que ça, former notamment informer les enseignants, c'est quelque chose qui peut être fait, on l'espère, à plus ou moins moyen terme? Parce que j'imagine qu'un enseignant qui déjà est au fait des problématiques de la drépanocytose va juger peut-être moins sévèrement un enfant, va moins le disqualifier, on va dire, et très certainement lui permettre d'avoir un peu plus de chance pour la suite, même si lui, en tant qu'enseignant, n'aura peut-être pas le temps de s'occuper précisément de cet enfant.
Tout à fait. Donc, de toute façon, on donnera ces résultats. On pense donner ces résultats via le protocole d'accueil individualisé, qui va au médecin scolaire, qui lui-même restitue à l'équipe enseignante.
D'accord. Donc,
ça, c'est relativement facile, parce que c'est quelque chose qu'on fait chaque début d'année. Donc, on pourra inclure les résultats des tests scolaires, donner des grandes lignes de façon à ce qu'ils en prennent compte.
On espère pour que ça améliore quand même le quotidien de ces enfants-là. Du coup, on est, nous sommes en mai, voilà, on peut espérer des résultats, des outils un peu plus concrets d'ici à un an, on va dire, le temps que les analyses aient été faites et qu'on ait pu créer ces outils. C'est à peu près le
oui,
le délai
un an, ça me semble raisonnable.
On se donne. Voilà, c'est pour vous donner rendez-vous à nouveau dans un an pour voir concrètement ce qui aura été fait. En tout cas, eh bien, merci à toutes les trois d'avoir été avec nous. On peut évidemment retrouver l'émission en podcast prochainement sur le site de Vivre FM. Toutes les informations concernant aussi ce projet de recherche sur le site de l'AFIRA. Est-ce que vous avez un autre site, d'autres informations, d'autres pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus? Alors, peut-être sur le projet de recherche, mais peut-être aussi très directement sur déjà comment améliorer la situation, le parcours scolaire en tout cas d'un enfant.
On a des documents qu'on peut déjà remettre aux parents et à destination des enseignants et qui seront disponibles sur le site de l'hôpital intercommunal de Créteil.
Voilà.
Donc, recherchés à partir de drépanocytose. Et qui sont aussi également disponibles sur le site du ROFSED.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été avec nous. Et puis, bonne journée à l'écoute de Vivre FM.